1996, l'inimaginable arrive. Les Tchétchènes l'avaient promis, ils l'ont fait. La puissante armée russe est chassée de Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Chassée par des guérilleros bien moins armés, mais décidés à libérer leur pays à tout prix. Les tanks russes quittent donc les ruines de Grozny et quelques jours plus tard, sous les auspices du général Liebed, un accord de paix est signé. Le conflit, qui a duré un peu moins de 2 ans, a provoqué la mort de près de 100 000 personnes. Des villages entiers ont été rasés, les droits de l'homme ont été systématiquement niés par les Russes, des femmes ont été violées, des hommes exécutés sommairement. La paix survient donc dans un pays meurtri, exsangue, dont la modeste économie a été anéantie. Les Tchétchènes ont vaincu contre toute attente, mais leur avenir ne s'éclaircit pas pour autant, car, disait M. X la semaine passée, la fin de cette première guerre et de son cortège d'horreurs porte en elle les germes de la seconde. Et d'abord parce que les généraux russes, humiliés par la capitulation qu'on leur a imposée, brûlent de prendre leur revanche à la première occasion sur les boïviki tchétchènes, comme ils les appellent, c'est-à-dire les bandits. Ce n'est bien sûr pas la seule raison qui explique le déclenchement de la seconde guerre de Tchétchénie en 1999, une guerre qui sera encore plus impitoyable que la première, mais cette impatience des militaires russes est un élément dont il faut tenir compte, surtout à un moment où, à la fin des années 90, la question tchétchène va devenir un argument de politique intérieure en Russie.
En 1996, la paix est donc signée, mais les Tchétchènes ne doivent pas se faire d'illusions. Ce n'est pas encore l'indépendance. Moscou a momentanément cédé, mais n'est nullement décidé à reconnaître la sécession de la petite république.
Et du côté tchétchène, on est conscient des menaces qui continuent à peser ?
Oh, les plus lucides, certainement. Mais il faut bien le dire, les Tchétchènes vont bientôt retourner à leur vieux démon.
C'est-à-dire ?
La division et aussi le banditisme. Alors voyons cela dans le détail. La division d'abord. Dans les mois qui suivent la signature de la paix, la plus grande confusion règne en Tchétchénie. L'armée indépendantiste qui a chassé l'envahisseur russe redevient bientôt une multitude de clans dirigés par des chefs de guerre. Des hommes qui n'agissent qu'en fonction de leurs propres intérêts et qui pillent ce qui reste encore à piller.
Mais il n'y a pas de pouvoir central.
Pendant plusieurs mois, non. L'homme qui a succédé au président Doudaïev...
Doudaïev, il faut le rappeler, a été tué au cours de la guerre.
Oui, c'est ça, dans les derniers mois du conflit. Mm-hmm. Et son successeur, donc, n'est pas de taille à pouvoir imposer son autorité. Et il faut attendre le mois de janvier 1997 et l'élection à la présidence de l'ancien commandant en chef des forces indépendantistes, Aslan Maskhadov, pour voir réapparaître un semblant d'ordre.
Un semblant seulement.
Oui, car ces premiers mois qui ont suivi la signature de la paix ont été cruciaux. Et il sera impossible de revenir en arrière.
Mmh. Un mot peut-être sur ce président Maskhadov, là.
Disons d'abord, quoi qu'en dise Moscou, qu'il a été régulièrement élu avec 60% des voix.
C'est pas n'importe quoi. Bon,
il a battu un chef de guerre très populaire, Chamil Basayev. Un homme qui va malheureusement jouer un grand rôle dans cette histoire. Nous en reparlerons, si vous voulez bien. Mmh. Alors, Maskhadov, me demandez-vous, c'est un modéré, un homme qui veut instituer un État laïque et qui est aussi partisan de négocier avec Moscou.
Pour éviter une nouvelle guerre.
Certainement. Mais les plus intransigeants l'accusent naturellement de vouloir brader l'indépendance.
Mmh. Essaie-t-il, enfin, pourtant, d'asseoir son autorité ?
Il essaie, oui. Et pour juguler l'opposition des chefs de guerre, il nommera même ce Basayev Premier ministre. Une alliance qui fera long feu. Non, la tâche est pratiquement impossible, car Maskhadov doit se battre sur plusieurs fronts, contre les mafieux d'abord.
Ah, cette fameuse mafia tchétchène.
Certains chefs de guerre ne sont bien souvent que des chefs de gang. Il faut le souligner, à la fin de la guerre, les Russes se sont empressés de libérer les criminels tchétchènes qui se trouvent retenus dans leur prison, à une condition qu'ils regagnent aussitôt leur patrie.
Pour vous, c'est pas innocent.
Bien sûr. La manœuvre était claire. Il s'agissait de criminaliser encore un peu plus une société tchétchène dont c'était déjà le penchant naturel.
Et vous n'exagérez pas, là.
Nullement. Les chefs de guerre, toujours eux, vont faire de la prise d'otages une véritable industrie. Et parfois, ces raptes crapuleux, qui se traduisent par le versement de fortes rançons, sont habillés de vagues justifications politiques. Il en est ainsi, par exemple, de l'enlèvement de Tchétchènes fortunés, accusés d'avoir collaboré avec l'envahisseur russe.
Ça, c'est facile.
Oui, enfin, la plupart du temps, il ne s'agit que de banditisme. Sinon, comment expliquer le rapt de membres d'organisations humanitaires ou de journalistes occidentaux ?
Oui, les Français en particulier sont enlevés, hein.
C'est vrai, et bien qu'on ait toujours démenti qu'il y ait eu versement d'une rançon, je suis persuadé du contraire. Il y aura aussi plus grave. En décembre 1998, 4 otages occidentaux, des techniciens des télécommunications, seront retrouvés décapités.
Oui. Les ravisseurs ont ainsi voulu donner un avertissement à ceux qui refusaient de verser les rançons.
C'est vraisemblable, mais le président Maskhadov accusera les bandits d'être manipulés par des services étrangers.
Les services étrangers, les Russes ? j'imagine.
Bah, Maskhadov ne le dit pas, mais enfin, c'est clair.
Vous avez bien un avis, vous ?
Ce n'est pas impossible. Les Russes avaient intérêt à noircir le tableau en Tchétchénie.
Afin de justifier une intervention ultérieure ?
Je le pense. Et je me réfère à un autre événement qui s'est passé au printemps 1997. Deux journalistes d'une chaîne de télévision publique russe sont enlevés. En Tchétchénie, petit pays où les informations circulent vite, chacun attribue la responsabilité du rapt à un homme qui travaille pour le FSB.
Mais, c'est-à-dire les services secrets russes, hein?
Oui, la suite est très intéressante. Les deux journalistes sont lâchés. Et le président de cette chaîne de télévision apparaît lui-même sur le petit écran. Il affirme qu'il a payé $1 million pour obtenir la libération de ses deux employés. Et pour bien marteler son propos, il exhibe une mallette pleine de billets verts. Voilà, dit-il, ce que vaut la vie d'un journaliste russe en Tchétchénie. Une exhibition qui fait l'objet de multiples rediffusions.
Ça ressemble à... C'est ça, une opération de propagande?
Ben oui, ça, pour y ressembler, ça y ressemble.
Hein? Et ça ferait partie alors de ce processus de criminalisation suscité par Moscou?
Je le pense. Et on soupçonnera aussi le FSB d'avoir donné un coup de main pour des enlèvements opérés en dehors même du territoire tchétchène.
Toujours dans le même but.
Oui, faire en sorte d'assimiler systématiquement les Tchétchènes à des bandits. Ajoutons, mais ça nous en avons déjà parlé dans notre précédente conversation, que se développe en même temps une vraie campagne raciste en Russie, contre les Caucasiens en général et les Tchétchènes en particulier.
Oui, mais ils disent ce qu'on appelle péjorativement les Noirs.
Oui, en Russie, ils font fréquemment l'objet de brimades ou même d'agressions de la part des skinheads.
Vous avez dit que le président Maskhadov devait se battre sur plusieurs fronts. Hein. Alors, il n'y a pas que les mafieux et les chefs de gang.
Non, non, toutefois, une parenthèse auparavant. Je ne cherche pas à excuser les activités criminelles de Tchétchènes ou de certains Tchétchènes. Mais il faut bien reconnaître que le pays est alors complètement dévasté et dépourvu de ressources. Non seulement les usines ont été bombardées et détruites, mais les troupeaux ont été décimés et les terres sont souvent truffées de mines. Or, la Tchétchénie est essentiellement un pays rural. Et ça explique que la population ait recours à des moyens illégaux pour survivre.
Par exemple, les prises d'otages.
Non, ça, c'est essentiellement le fait des groupes mafieux. Mais il y a aussi le piratage de cet oléoduc qui traverse la Tchétchénie et qui transporte le pétrole de la mer Caspienne. Un oléoduc qui va devenir au fil des années une véritable passoire.
Parce que tout le monde se sert.
Et ce pétrole est revendu en contrebande. C'est une source de revenus non négligeable.
Alors parlons justement du pétrole qui a été aussi au cœur du déclenchement de la première guerre, m'avez-vous dit. Hein?
Non, attendez, j'en ai pas fini avec l'aspect économique. Alors si vous voulez, très rapidement. La situation a changé, car il y a maintenant d'autres tubes qui ne passent pas par la Tchétchénie.
Donc ce fameux oléoduc tchétchène n'est plus aussi vital pour les compagnies pétrolières ?
C'est ça. Alors, revenons à l'économie.
D'accord.
La Tchétchénie, je vous le rappelle, est un pays enclavé. Toute aide étrangère doit donc obtenir l'accord de la Russie. La Russie qui se garde bien d'autoriser cette aide. D'autre part, Moscou, qui au terme du traité de paix s'était engagé à reconstruire la Tchétchénie, ne respecte pas ses promesses. La conséquence, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le développement de cette économie parallèle et souvent mafieuse. Car c'est un véritable blocus que la Tchétchénie doit faire face.
Bien, alors je repose ma question. Maskhadov doit se battre sur quel autre front ?
L'islamisme. Je crois vous l'avoir dit, mais l'islam pratiqué en Tchétchénie était une religion tolérante et plutôt bon enfant, si je puis dire. Il en va tout autrement de l'islam, qui va être importé par des militants fondamentalistes venus du Proche-Orient, d'Arabie Saoudite ou même d'Afghanistan.
Des Moudjahidines ?
Oui, des types qui ont combattu là-bas contre les soviétiques et qui, presque naturellement, au nom de l'islam, vont épouser la cause tchétchène.
Quand arrivent-ils précisément ?
Bien, les premiers débarquent pendant la première guerre, ils ont de l'argent.
L'argent saoudien.
En particulier, oui. Ils sont donc bien armés, bien équipés. Et ils se battent avec courage contre les Russes. Ça leur permet d'acquérir une popularité certaine. Surtout parmi les plus jeunes des Tchétchènes. Et comme personne n'a osé les désarmer à l'issue de la guerre, ils vont représenter un danger réel pour le pouvoir. Un danger que Moscou avait tout à fait intérêt à exagérer et même à exploiter.
Les premiers islamistes sont arrivés en Tchétchénie avant même la dislocation de l'Empire soviétique. Et ils n'ont guère eu de succès sous le régime du président Doudaïev, musulman très modéré et surtout ex-général de l'armée rouge. Les autres arrivent plus tard. Ainsi, voici ce que je lis dans un numéro du Monde diplomatique de mars 2000 sous la plume d'Isabelle Astigaraga. La deuxième vague arrive pendant la guerre avec des volontaires formés au Proche-Orient ou en Afghanistan et surtout à partir de l'été 1995, avec l'argent qui permet aux indépendantistes de se réarmer et de s'équiper en moyens de communication. Peu à peu, on commence à parler de ce commandant saoudien ou jordanien, venu d'Afghanistan, surnommé Khattab, qui dirige son propre groupe de combattants dont les victoires sont d'ailleurs attribuées à M. Chamil Bassaïev, auquel il s'est allié. Au fil des mois, sa popularité grandit parmi les combattants qui admirent son savoir-faire de guérillero professionnel. Dans les derniers mois de guerre et juste après, les islamistes, dont Khattab est le plus connu mais pas le plus important, commencent à recruter sur tous les fronts. Ils proposent de l'argent, des armes et une doctrine qui ne déplaît pas forcément aux jeunes, lesquels y voient une libération du carcan de la tradition tchétchène et notamment de sa pierre angulaire, le respect des aînés. Un respect que ces jeunes gens ont largement perdu depuis un an et demi en voyant les anciens des villes et des villages en négocier la reddition avec les Russes pour faire cesser les bombardements, tandis qu'eux risquaient leur vie et mouraient dans les combats. Très vite, les islamistes comptent au moins un ou deux hommes dans chaque petit groupe armé. Parlant des islamistes, vous parlez d'un danger qui a été sciemment exagéré par Moscou.
Mais remarquez-le, je n'ai pas nié le danger. En fait, il était tentant pour certains chefs de guerre, et je pense surtout à Chamil Bassaïev, de se servir de l'islamisme.
Pour quelle raison fondamentale? Pour affaiblir le pouvoir du président Maskhadov?
Oui, mais c'était effectivement dangereux dans la mesure où pouvaient se glisser parmi ces militants ou combattants islamistes les plus fondamentalistes des fondamentalistes, ceux qu'on a appelés les wahhabites.
Ce qui a... était effectivement le cas.
Effectivement. Mais là encore, il faut faire la part des choses et de la propagande de Moscou. Les meilleurs spécialistes ont estimé qu'il n'y a jamais eu plus de 3000 wahhabites en Tchétchénie. C'est peu, très peu. D'autre part, il est certain que ces fondamentalistes musulmans n'ont jamais été très appréciés par la population tchétchène.
Alors, question d'actualité, là. Parmi eux, est-ce qu'il y avait des hommes d'Al-Qaïda?
Oh, c'est probable, même s'il ne faut jamais oublier que l'organisation de Ben Laden est une nébuleuse de groupes autonomes très difficiles à cerner. Mais là encore, les Russes avaient intérêt à faire croire que des militants d'Al-Qaïda avaient rejoint les indépendantistes tchétchènes.
Ouais, pour légitimer, enfin, toujours, la Deuxième Guerre.
Bien entendu.
Attendez. C'est quand même un point très important parce que plus tard, Poutine accusera les indépendantistes tchétchènes de faire cause commune avec Ben Laden. Hein.
Mais je suis d'accord avec vous. Alors oui, tordons le nez à un canard, les liens entre les Tchétchènes et Ben Laden ont été très distendus. Et d'abord parce que les combattants tchétchènes, à l'exception de ces musulmans fondamentalistes, se sont toujours méfiés des extrémistes. Et le nombre de volontaires étrangers venus se battre en Tchétchénie a toujours été faible. Seulement, c'est vrai, à partir du moment où sera déclenchée la Deuxième Guerre, le camp islamiste se renforcera.
Parce que l'islam redeviendra un facteur de cohésion dans la lutte contre l'envahisseur russe.
Oui, forcément. Je ne sais plus qui a dit « plus les bombes tombent et plus les barbes poussent ». C'est clair, non? Mais si vous voulez une nouvelle preuve de l'influence réduite d'Al-Qaïda sur les Tchétchènes, tournez-vous du côté de Guantanamo.
Le corps des prisonniers arrêté en Afghanistan et détenu à Cuba.
Oui, détenu d'une façon parfaitement illégale par les Américains. Mais enfin, c'est une autre histoire. Non, ce que je voulais souligner, c'est qu'aucun Tchétchène ne figure parmi les étrangers capturés en Afghanistan. Il y avait des Russes, oui, quelques-uns, mais aucun Tchétchène.
Oui. Alors revenons à ce que vous disiez, l'influence islamiste.
Les progrès de l'islamisme en Tchétchénie doivent surtout beaucoup à la faiblesse du président Maskhadov et peut-être même à l'aide qui leur a été apportée par Moscou.
Mais vous avez les preuves, hein?
Bon, je remarque simplement que des documents de propagande wahhabite ont été imprimés en Russie. C'est quand même étrange, non?
Oui, c'est un peu troublant. Alors, la faiblesse de Maskhadov, avez-vous dit?
Le président tchétchène, enfin, il est difficile de lui jeter la pierre, se trouve dans une situation extrêmement périlleuse. Il est à la tête d'un pays morcelé, où chacun tire à hue et à dia, et où les chefs de guerre ont déjà conquis de véritables fiefs et n'entendent pas se plier à son autorité. Et ce sont d'abord les islamistes qui l'inquiètent. Des islamistes que son rival, Chamil Bassaïev, a pris sous sa coupe.
Et que peut-il faire alors?
Il n'y a que deux attitudes possibles. Ou bien s'opposer frontalement à ces islamistes, peut-être même utiliser la force contre eux, mais Maskhadov craint alors que la Tchétchénie ne devienne une sorte d'Afghanistan. Alors il choisit la deuxième solution. Il va composer en se disant qu'il contrôlera mieux les islamistes en les incorporant dans ce qui reste de l'appareil d'État.
Et il récupère vraiment son autorité perdue?
Pas vraiment. Les islamistes vont lui imposer concession sur concession. Et sous leur pression, Maskhadov finira même par proclamer la charia. Ça n'empêchera pas l'éclatement de plusieurs conflits armés entre les troupes officielles et les milices islamistes.
Conflits qui tournent à l'avantage de qui?
Les islamistes sont vaincus.
Maskhadov va en profiter alors pour reprendre la main.
Hein. Oui, il annonce aussitôt qu'il va restreindre l'activité de ces groupes d'opposition virulents, bien que minoritaires. Mais quelques jours plus tard, il est victime d'un attentat. Il en réchappe, mais tous ses gardes du corps sont tués.
Ah oui, sérieux avertissement.
Sans nul doute. À partir de ce moment-là, il apparaît nettement que le président tchétchène a perdu la main. Il est attaqué de tous côtés. Les modérés l'accusent de faiblesse vis-à-vis des islamistes et les plus intransigeants lui reprochent de chercher à discuter avec Moscou.
Moscou a accepté cette reprise des discussions ?
Non, pas vraiment. Moscou, pardonnez-moi l'expression, se défile. Ainsi, sur la demande du président Maskhadov, le Kremlin promet de coopérer dans la lutte contre la criminalité, mais n'en fera rien. Non, il est clair que les Russes parient sur le pourrissement de la situation.
En donnant ponctuellement quelques coups de main à ceux qui peuvent contribuer à l'accroissement du chaos.
C'est exact, oui. Il ne fait nul doute que le moment venu, Moscou se lancera dans une nouvelle guerre en Tchétchénie. C'est ce qui se dit ouvertement à Moscou dès le printemps 99.
Mmh. Seulement, il faut trouver un prétexte pour intervenir.
Naturellement. Et les Russes vont fabriquer ce prétexte. Mais auparavant, voyons quelle était la situation en Russie en 1999. Le tsar Eltsine était alors sur la sellette.
Mais les affaires.
Oui. Son entourage, ce qu'on appelait à Moscou la famille, était accusé d'avoir détourné des sommes considérables. De l'argent du FMI qui devait servir à remettre la Russie sur pied. Le président russe était donc très préoccupé. Pas seulement lui, car les oligarques qu'il avait contribué à enrichir étaient aussi dans la ligne de mire. C'était d'autant plus inquiétant pour le Kremlin que le premier ministre Evgeny Primakov, un politicien très populaire, était bien décidé à nettoyer les écuries d'Ogias.
Ah, il fallait donc faire vite.
Très vite, car des élections législatives étaient prévues à la fin de l'année et ensuite un scrutin présidentiel l'année suivante. Et tout indiquait que Eltsine et les siens, largement discrédités, risquaient de perdre.
Mm-hmm. Oui, j'ai bien compris. Là, une nouvelle guerre en Tchétchénie permettrait de redorer le blason du clan Eltsine.
Oui, à condition de bien préparer l'opinion publique.
Alors, il y a un plan. Quel est-il ?
Je vais faire court, hein, car il n'y a pas si longtemps, nous avons consacré l'une de nos conversations à la fulgurante ascension de Vladimir Poutine.
Mais une ascension qui doit beaucoup à la question tchétchène.
Qui doit tout, je vais dire. Alors ce plan, il faut d'abord se séparer de ce premier ministre qui se donne des allures de chevalier blanc. C'est fait. En mai 99, Primakov est viré.
Une question avant de poursuivre. Quelle était la politique de Primakov à propos de la Tchétchénie, justement ?
Primakov, ancien du KGB, était surtout connu pour ses talents de diplomate et il était partisan de régler l'affaire par la négociation avec les indépendantistes. Il en était d'autant plus persuadé que le président tchétchène élu, Maskhadov, n'était pas un jusqu'au boutiste. Il se serait certainement satisfait d'un statut de très large autonomie.
Sans rompre formellement avec Moscou ?
Oui. Et c'était la raison même, tant ce petit pays enclavé dépendait étroitement de l'aide russe. Une république tchétchène complètement indépendante n'était pas viable. Pas encore, en tout cas.
D'accord. Alors, Primakov est viré.
Et un jeune et terne premier ministre est nommé par Eltsine. Si terne que j'ai même oublié son nom. Enfin, ce nouveau premier ministre qui est aux ordres n'est pas de force. Il est incapable d'apaiser la tempête qui risque d'emporter le maître du Kremlin. D'autant que les Russes n'ont pas digéré la brutale éviction de Primakov. Des comités de soutien se forment un peu partout. Il est plus que jamais urgent d'agir.
Et c'est ainsi que va apparaître Poutine.
Oui. Le jeune premier ministre nommé par Eltsine est à son tour viré. Il n'aura gouverné que 2 mois. Et Poutine, un quasi-inconnu, le remplace.
Un quasi-inconnu qui est quand même le patron des organes de sécurité, hein, comme on disait autrefois en URSS.
Mais ce n'est pas un hasard. Poutine accède au pouvoir au mois d'août. Et à partir de ce moment, tout va aller très vite.
J'ai trouvé dans un numéro du Monde de septembre 1999, c'est-à-dire avant le déclenchement de la seconde guerre de Tchétchénie, une interview du président Maskhadov par la journaliste Sophie Chiab. Voici ce que déclare le président tchétchène. « Je disais depuis longtemps que plus on approcherait des élections russes, plus grandes seraient les chances de voir la Tchétchénie devenir à nouveau un pion de celle-ci. C'est ce qui s'est passé. Même s'il y a eu de bons contacts à nouveau ensuite avec Evgeny Primakov, par exemple, c'est un homme sans illusion et un homme de parole. Mais en Russie, on avait déjà décidé de passer à d'autres méthodes. Ils se sont préparés très professionnellement. Ils ont tout fait pour discréditer un peuple qui s'était dignement battu pour sa liberté. Les prises d'otages, le terrorisme, le wahhabisme, c'est aussi leur travail. Les Russes ont commencé le cycle des otages avec leur camp de filtration pendant la guerre. Puis ils ont payé des millions de dollars aux bandits pour le rachat de gens connus. C'est plus de la politique que du banditisme. Question de la journaliste du Monde. Mais il y a aussi du banditisme, il y a des centaines d'otages tchétchènes. Réponse de Maskhadov. Je ne dis pas non, mais on n'avait pas ça avant. Maintenant, on enlève des gens à Moscou ou en Ossétie, on les vend en Ingouchie et on les amène en Tchétchénie pour réclamer d'ici la rançon. Des officiers russes vendent leurs soldats et le pays est en ruine. Des jeunes n'ont que leurs armes et leur haine de tout car le pays est dévasté et soumis au blocus. Les Russes n'ont pas payé ce qu'ils ont promis. Ils ont fermé la voie ferrée et l'aéroport ces dernières semaines 60 wagons de blé américain, aide humanitaire destinée à la Tchétchénie, ont été détournés vers l'Ossétie et l'Ingouchie.
Poutine est donc nommé Premier ministre au début du mois d'août 1999 et simultanément des islamistes tchétchènes, commandés par Chamil Basayev, s'introduisent au Daghestan.
C'est-à-dire la république voisine de la Tchétchénie,
oui,
à l'est,
hein, je crois. C'est ça, oui, une république qui, elle, fait partie de la Fédération russe. L'objectif affirmé de ces hommes, qui seraient des wahhabites, c'est l'établissement au Daghestan d'un État islamiste. Pour Moscou, c'est une vraie provocation. Et Poutine, à peine nommé, annonce que l'armée russe va lancer une grande offensive pour chasser ces troupes qui menacent l'intégrité territoriale de la Fédération. Et au passage, leurs bases situées en Tchétchénie vont être frappées.
Mmh. C'est le point de départ d'une nouvelle guerre.
Pas encore. Pas encore parce que les hommes de Basayev vont tranquillement retraverser la frontière sans que l'armée russe ne s'y oppose sérieusement. Mais ils reviendront un peu plus tard.
Nouvelle incursion.
Oui, assez brève cette incursion. Mais elle coïncidera avec un violent attentat commis contre un immeuble occupé par les troupes russes. Il y aura 60 morts.
Au Daghestan, donc.
Oui, c'est exact. Suivant d'intenses bombardements russes de part et d'autre de la frontière entre la Tchétchénie et le Daghestan.
Mmh. Et, enfin, disons-le tout de suite, tout ça vous paraît très curieux.
Évidemment. On aurait voulu donner un prétexte aux Russes pour intervenir en Tchétchénie qu'on n'aurait pas fait mieux. Enfin, c'est pas fini.
Attendez, avant d'aller plus loin, comment décryptez-vous cette double incursion au Daghestan?
Tout tourne autour de ce chef de guerre, Basayev. Un homme qui est, je vous le rappelle, le principal opposant du président Maskhadov. Basayev a toujours entretenu d'excellentes relations d'affaires avec les oligarques russes, et en particulier avec l'un des plus éminents d'entre eux, Boris Abramovitch Berezovsky. Et ce dernier a convaincu Basayev de se livrer à ce petit simulacre de guerre.
Un simulacre, il y a un scénario prévu là.
Oui, Basayev devait pénétrer avec ses hommes au Daghestan. On lui promettait que les troupes russes présentes dans cette république auraient été préalablement retirées. Il y aurait forcément des accrochages, mais limités. Mmh. Ensuite, l'armée russe interviendrait, Basayev regagnerait sagement ses bases en Tchétchénie. L'important, c'était de montrer à l'opinion publique russe que les Tchétchènes étaient décidément des gens épouvantables et qu'il fallait qu'un homme fort règle la question une fois pour toutes.
Mmh. Je veux bien vous croire, mais enfin, qui a poussé Berezovsky à agir ainsi, le Kremlin, pour hisser Poutine jusqu'aux premières marches du pouvoir?
Eh bien non. Ça vous étonne, n'est-ce pas?
Ah oui.
Berezovsky avait son idée. Pour lui, le sauveur, l'homme fort qu'il appelait de tous ses vœux, c'était le général Liebed.
Celui qui avait signé la paix en 1996.
Oui, hein. Liebed était très populaire et il bénéficiait de la confiance de la troupe. C'est déjà avec les millions de Berezovsky qu'il avait été élu gouverneur de Krasnoïarsk.
Ouais, en Sibérie, hein, c'est
ça. Mais au Kremlin, on ne voulait pas de Liebed. Trop encombrant, trop incontrôlable. Parce que Etzin et son clan n'avaient qu'une idée en tête, se sortir d'affaire.
C'est-à-dire échapper à la justice.
Oui, et si Liebed devenait l'homme fort de la Russie, Etzin n'était pas certain de pouvoir échapper aux ennuis qui le menaçaient. Alors le Kremlin a d'abord laissé faire. Le scénario s'est déroulé à peu près comme prévu, mais Poutine est intervenu. Et c'est lui qui a pris les choses en main avec l'accord de l'état-major de l'armée qui rêvait de revanche depuis 1996.
Ouais. C'est-à-dire qu'il a coupé l'herbe sous les pieds de Berezovsky, au fond.
Oui, du général Liebed, qui s'y voyait déjà. Et notez-le bien, ça coûtera très cher à Berezovsky, qui deviendra plus tard la bête noire de Poutine.
Ouais, il est toujours, hein.
Oui, malgré toutes les faveurs qu'il avait précédemment accordées au clan Etzin.
Il est aujourd'hui exilé.
Il a perdu les médias qu'il contrôlait, fait l'objet de poursuites judiciaires en Russie, mais je poursuis. Mm-hmm. Etzin et Poutine ont donc récupéré la manipulation montée par Berezovsky. Mais celui qui allait devenir le successeur de Boris Etzin n'entendait pas en rester là. Il a vite compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette affaire tchétchène. Et à mon avis, le premier signe, c'est cet attentat au Daghestan.
L'attentat contre l'immeuble des forces russes.
Hein. Oui, oui.
Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est Poutine qui a commandité cet attentat.
Un attentat qui n'est que le premier d'une série. Il y en aura à Moscou et en province. Au total, il y aura des centaines de morts.
Oui, d'accord, mais enfin, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein.
Alors, je vais essayer de vous donner satisfaction. Il est évident qu'il n'existe aucun ordre écrit de Poutine ordonnant à ses anciens collègues des services secrets de perpétrer ces attentats. Mais ça ne veut pas dire que le Kremlin ait été étranger à ces massacres, qui, aussitôt attribués aux terroristes tchétchènes, vont permettre à l'armée russe d'entamer la Deuxième Guerre, avec le soutien massif de l'opinion russe.
Ouais, je vais vous dire, il ne pouvait pas en être autrement.
Oui, et étant donné la mauvaise réputation des Tchétchènes, c'était relativement facile de dresser les Russes contre eux.
Alors vous me dites que le Kremlin, ce n'est n'est pas forcément étranger à ces attentats.
Je le pense, ça, oui, hein. Comme je suis persuadé que les services secrets, c'est-à-dire le FSB, ont joué un rôle dans ces affaires.
Parce que, alors, selon vous, ce sont des agents du FSB qui ont posé ces bombes?
Ah, je n'ai pas dit ça, non. Non, je pense à ces fous de Dieu, ces wahhabites, contrôlés par Bassaïev, dont le chef était un jordano-saoudien, un certain Khattab. Rien n'était plus facile que d'infiltrer ce groupe et de le manipuler. Un groupe qui, d'ailleurs, avait déjà reçu l'aide matérielle du FSB.
Ah, dans le but de déstabiliser le pouvoir du président Maskhadov.
Bien entendu, donc les contacts existaient déjà. Il a suffi ensuite d'être persuasif. Après tout, pour ces types qui avaient parfois combattu l'armée rouge en Afghanistan, tué des Russes, ne devait pas poser beaucoup de problèmes de conscience. Mais je vais vite. Les Tchétchènes, étant accusés d'être les responsables de ces attentats, Poutine peut lancer ses troupes à l'assaut de la Tchétchénie dès la mi-septembre.
Oui, au nom de la lutte légitime contre le terrorisme.
Oui, mais ça dure toujours. Et c'est dramatique, parce que cette deuxième guerre est peut-être encore plus horrible que la première. Enfin, je ne vous apprends rien.
Et les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis conforteront la position de Poutine.
Il dira qu'à sa manière, lui aussi combat Al-Qaïda. Et peu de pays oseront protester. La guerre se poursuit donc dans le plus grand silence. Enfin, je veux dire le silence des grands États. Et remarquez que la dramatique prise d'otage de l'automne dernier dans un théâtre de Moscou, la Dubrovka, est survenu à point nommé pour justifier encore une fois le combat de Poutine. Mais rien n'est clair dans cette affaire, je crois vous l'avoir déjà dit.
Il aurait donc pu s'agir, selon vous, d'une nouvelle manipulation?
C'est très probable. Surtout lorsqu'on s'attarde sur la personnalité du chef du commando tchétchène. Ce Movzar Barayev n'était qu'un chef de gang. Et l'un de ses parents, son oncle, je crois, était l'un des principaux artisans de cette industrie de la prise d'otage dont je vous ai déjà parlé.
Mais alors... Quitte à vous répéter, pourquoi cette dramatique affaire arrivait-elle à point nommé pour Poutine?
Parce qu'il avait déjà en vue l'organisation de ce référendum mascarade de mars 2003. Un scrutin qui devait permettre de mettre hors jeu Maskhadov et arrimer définitivement la Tchétchénie à la Russie.
Une dernière question. Pourquoi la guerre dure-t-elle toujours?
Bonne question. Poutine a besoin de cette guerre qui justifie l'état autoritaire qui se met peu à peu en place en Russie. Une guerre qui donne aussi l'illusion aux Russes que leur nouveau tsar est en train de travailler à la restauration de la grandeur russe. Enfin, il ne faut pas oublier les profits des uns et des autres. Enfin, je pense surtout aux généraux russes qui pillent systématiquement la Tchétchénie et qui n'ont pas du tout envie de renoncer à ses prébendes.
Pourquoi cet épouvantable conflit se poursuit-il? Ai-je demandé à M. X. Le 10 février dernier, la correspondante du Monde à Moscou donne sa propre réponse. En 3 ans, le conflit dans le Caucase est devenu une composante intégrale de l'édifice complexe du pouvoir tel qu'il existe aujourd'hui en Russie. Obligé de trouver un équilibre au cœur d'un triangle composé des oligarques, des barons régionaux et des structures de sécurité, armées, police, services secrets dont il est issu, Vladimir Poutine semble utiliser la prolongation de la guerre comme un moyen de pression sur les uns et les autres. La violence de l'État russe, déchaînée sur le petit territoire tchétchène, a agi comme une mise en garde aux différents pans de la société. Le Kremlin a par exemple instrumentalisé le drame de la Dubrovka pour limiter encore plus la liberté des journalistes. Dépendant du FSB, les services secrets russes qui placent leurs hommes dans l'administration d'État et dans les grandes compagnies, Vladimir Poutine dispose aussi par le biais du conflit tchétchène d'un levier sur eux. Chargé de l'opération antiterroriste en Tchétchénie, le FSB portera le cas échéant la responsabilité de ses ratés. La même logique vaut pour les généraux de l'armée déployés en Tchétchénie, compromis dans de nombreux crimes et trafics. Enfin, je vous rappelle la récente parution d'un petit livre indispensable, Tchétchénie, 10 clés pour comprendre, aux éditions de La Découverte. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Vous pourrez aussi avoir accès à la bibliographie et à la discographie.